RFI 8h30 à Luanda, 7h30 à Dakar et Kaolack. Le journal de Nemo en pisse est à la une, les suites des annonces du FMI sur la dette cachée du Sénégal.
On parle de 7 milliards de dollars entre 2019 et 2024. Certaines voix appellent à des sanctions contre les responsables à l'origine de la manœuvre et les nouvelles autorités à prendre des mesures pour que plus jamais cela ne se reproduise. L'association des journalistes du Burkina Faso dissoute par les autorités de transition. La semaine dernière, ses présidents et vice-présidents avaient évoqué un niveau jamais atteint concernant les atteintes à la liberté d'expression. Vous entendrez Sadibou Maron, directeur du bureau Afrique de l'Ouest de Reporters sans frontières. Je vous rappelle que notre invité ce matin est Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de la transition gabonaise. Il justifie notamment sa candidature à la présidentielle du 12 avril prochain, alors qu'il avait promis de rendre le pouvoir aux civils. Vous retrouvez l'entretien sur RFI.fr. Et puis, 40 millions de francs CFA réunis pour Yasmina, cette jeune orpheline nigérienne atteinte d'une maladie incurable. Elle avait besoin de cette somme pour se rendre en Turquie et pour pouvoir bénéficier de soins. Au Sénégal, la mission du FMI a confirmé le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des dépenses publiques de 2019 à 2024, soit sous la présidence de Macky Sall. Selon le Fonds monétaire international, une dette d'un montant de près de 7 milliards de dollars a été cachée par l'administration alors au pouvoir. Écoutez Mundiaye Cissé à la tête de l'ONG 3D. Selon lui, il faut que la justice s'empare du dossier et que le Sénégal entreprenne des réformes pour éviter ce genre de manquement et qu'il ne puisse se reproduire.
Ces faits confirmés par le FMI doivent amener à prendre des mesures à la fois correctives et coercitives afin que plus jamais de tels faits préjudiciables à notre économie, à l'image et à la crédibilité du Sénégal ne se répètent. Il faut prendre des sanctions à l'encontre de ceux qui sont à l'origine de ces faits, mais il faut également corriger en procédant d'abord à la réforme de la loi portant transposition du code de transparence qui voudrait qu'on attende la fin d'un mandat pour constater les dégâts finalement. Parce que cette loi prévoit l'audit général des finances publiques qu'au début d'un nouveau mandat. On devrait aller dans le sens de pouvoir faire l'audit des finances, l'audit général des finances publiques à mi-mandat. Ça permet de minimiser les dégâts.
Mundiaye Cissé au micro de Léa Lisa Vesterov. Au Burkina Faso, on vous annonçait hier les arrestations de Guezou Massanogo et de Boukari Ouoba, respectivement président et vice-président de l'AJB, l'association des journalistes du Faso. Eh bien, depuis hier, l'AJB est dissoute, annonce faite par les autorités de transition par la voix d'Émile Zerbo, ministre de l'administration territoriale, qui explique qu'elle n'est pas conforme aux nouvelles exigences légales de la loi de 2015 sur les associations. Vendredi dernier, les deux hommes à la tête de l'AJB avaient dénoncé des atteintes à la liberté d'expression et de la presse jamais égalées depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Je vous propose d'écouter ce mercredi Sadibou Marong, directeur du bureau Afrique de l'Ouest de RSF, Reporters sans frontières, qui constate que la répression contre la presse burkinabé ne cesse de s'accentuer.
Au tout début, c'était des menaces. Par exemple, beaucoup de responsables de médias avaient été menacés, soit à la sortie de leurs journaux, à la sortie de la radio, par des gens qui étaient à vélo, à moto. Et après maintenant, nous avons vu le mode opératoire qui continue un peu. Que cela soit la nuit, maintenant c'est en plein jour, par exemple, comme on l'a vu avec Guezou Massanogo et Boukari Ouoba, qui ont été pris directement au Centre national de presse Norbert Zongo. Mais on a vu également que Serge Houlan, en juin, a été, enlevé très tôt le matin de chez lui. Adama Bayala, on a vu qu'il a été enlevé alors qu'il était dans la circulation. Donc, ce sont des moyens opératoires qui montrent effectivement jusqu'où les autorités militaires actuellement peuvent aller un peu pour rétrécir davantage l'espace public, mais également on peut faire taire toutes les voix qui sont considérées comme des voix critiques ou en tout cas des opinions qui peuvent fondamentalement être défavorables ou pas en phase avec ce que la junte veut.
Sadibou Marong, directeur du bureau Afrique de l'Ouest de RSF. Il était joint par Sidi Ansané. Aliko Dangote exporte désormais son kérosène pour l'aviation en direction des États-Unis. Le milliardaire nigérian, homme le plus riche d'Afrique, à la tête notamment d'une méga raffinerie capable de sortir 650 000 barils de carburant par jour à Lagos. Il a multiplié ces derniers mois les contacts pour trouver des débouchés pour sa production, lui qui accuse toujours la compagnie pétrolière nationale du Nigérian de lui mettre des bâtons dans les roues et de bloquer son accès au marché intérieur. Lisa Fabian, cette fois, son accès au marché international pourrait avoir de nombreuses conséquences.
Les importations de kérosène pour l'aviation aux États-Unis devraient atteindre leur plus haut niveau en 2 ans grâce aux livraisons de la raffinerie nigériane d'Aliko Dangote. 1 700 000 barils de kérosène produits à Lagos sont arrivés dans les ports américains ce mois-ci et une livraison supplémentaire de près de 350 000 barils est encore attendue le 29 mars. Le milliardaire nigérian est parvenu à s'imposer en profitant de la maintenance de la raffinerie de Bayway dans le New Jersey. Une opportunité qui ne se représente pas forcément en raison des stocks élevés de kérosène aux États-Unis, mais c'est un joli coup pour Aliko Dangote, toujours en conflit ouvert avec la compagnie nationale pétrolière dans son propre pays. La NNPC vient de mettre fin à un accord dit pétrole brut contre Naira qui permettait au Mania de payer en devise locale pour approvisionner son usine. Contraint de réaliser ses transactions en dollars, Aliko Dangote vient d'annoncer qu'il va cesser d'écouler son essence au Nigeria à partir du mois d'avril, une décision qui inquiète fortement les consommateurs et qui a d'ores et déjà entraîné une augmentation des prix du carburant dans le pays.
Lisa Fabian. Un bombardement au Soudan en début de semaine dans le nord du Darfour. Plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés dans la ville de Tora. C'est le marché qui a été visé et plusieurs organisations de la société civile pointent du doigt l'armée soudanaise du général Al-Burhan pour cette frappe. Et puis au Soudan du Sud, l'opposition dénonce des frappes sur une de ses bases militaires situées près de la capitale, Djouba. Riek Machar, le vice-président, évoque une provocation constituant, je cite, une violation de l'accord de paix signé en 2018, accord largement fragilisé ces dernières semaines après un regain de tension avec l'armée régulière, elle qui est fidèle au président Salva Kiir. Un procès pénal fixé au 23 juin prochain par un juge fédéral du Texas aux États-Unis dans l'affaire des crashs de 2 Boeing en 2018 et 2019. Ils avaient fait 346 morts au total. Le 10 mars 2019, c'est un appareil de la compagnie Ethiopian Airlines qui s'était écrasé à peine 6 minutes après son décollage de l'aéroport d'Addis Abeba. L'actualité du continent toujours en bref et le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, qui a mis à la retraite le chef de l'armée, Anselem Namo Sanyatwe. Il l'a nommé ministre des Sports et de la Culture. Une décision qui intervient alors que les tensions politiques s'intensifient dans le pays. Ancien commandant de la garde présidentielle, Anselem Namo Sanyatwe, avait été sanctionné par les États-Unis en 2019 pour la répression post-électorale de 2018. Son éviction serait, selon un analyste joint par l'AFP, une manœuvre pour prévenir un coup d'État contre Emmerson Mnangagwa. La Tunisie dans ce journal avec l'ouverture hier de la seconde audience du procès sur l'envoi de jeunes Tunisiens en Syrie et en Irak sur la période allant de 2011 à 2014. Parmi les figures les plus en vue dans cette affaire, Ali Larayed, ancien Premier ministre, ex-ministre de l'Intérieur et également secrétaire général du parti islamiste Ennahda. C'est un sujet qui avait particulièrement fait parler dans le pays puisque la majorité de ces jeunes Tunisiens s'étaient radicalisés dans les branches du groupe État islamique. RFI Tunis, Lilia Blaise.
Ce n'est pas le procès d'Ennahda, mais plutôt de la politique du parti au moment où il était au pouvoir, résume Samir Dilou, l'un des avocats d'Ali Larayed. Ministre de l'Intérieur entre 2011 et 2013, puis chef du gouvernement tunisien l'année suivante, ce cacique historique du parti islamiste Ennahda est en prison depuis 3 ans dans le cadre de l'affaire dite de l'envoi des Tunisiens vers des zones de conflit. Ce mardi, le politicien n'était pas physiquement présent à son audience, mais derrière un écran, en visioconférence, comme les 7 autres accusés dans cette affaire, dont 3 salafistes issus de la mouvance djihadiste Ansar el-Sharia. L'accusé a tenté de prendre la parole, mais le juge a commencé son réquisitoire, avant d'être interrompu par les avocats qui ont plaidé pour un report du procès, faute d'un dossier complet. Ali Larayed est accusé sur la base de la loi antiterroriste de laxisme, voire de complaisance dans la gestion des départs de jeunes combattants tunisiens vers la Syrie. Pour les avocats d'Ali Larayed, si l'importance d'établir la vérité et les responsabilités sur cette période est essentielle, ils estiment qu'on ne peut pas juger dans un tribunal le rendement d'un ministre sans preuve matérielle suffisante. Le procès a été reporté au 22 avril prochain. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
En Algérie, la justice devrait rendre sa décision demain sur le sort de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. La semaine dernière, le procureur a requis 10 ans de prison. Une demande injuste selon ses soutiens qui assurent qu'il se serait retrouvé pris au milieu des tensions qui ont émergé ces derniers mois entre la France et l'Algérie. Hier, 700 personnes étaient réunies à Paris en soutien à l'écrivain. Volker Türk, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a condamné l'attaque du groupe État islamique au Grand Sahara contre une mosquée de l'ouest du Niger. C'était vendredi dernier, au moment de la grande prière. Bilan 44 fidèles tués, des dizaines de blessés. Cette attaque, à un moment aussi important pour les musulmans, devrait être un signal d'alarme pour tous, dit-il. Volker Türk qui demande l'ouverture d'une enquête. À Niamey. Et puis la solidarité nigérienne, justement, en lumière pour refermer cette édition. De très nombreux internautes ont été touchés par l'histoire de Yasmina. Yasmina, c'est cette jeune orpheline atteinte d'une maladie rare et incurable. Elle peut tout de même bénéficier de soins pour la soulager, mais pour cela, il faut traverser les frontières et en l'occurrence se rendre en Turquie. L'idée d'une cagnotte en ligne a donc été lancée et a permis de récolter des dons suffisants pour financer son évacuation sanitaire. La belle histoire du jour racontée par Magali Lagrange.
En robe fleurie, Yasmina affiche un sourire sur un visage juvénile sur la photo qui accompagne la cagnotte lancée sur les réseaux sociaux. La jeune étudiante est atteinte du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique rare qui provoque raideur musculaire et spasmes douloureux. Diagnostiquée en septembre dernier à Tunis, la maladie est incurable, mais des traitements peuvent en soulager les symptômes. Des traitements que la jeune orpheline, décrite comme une élève brillante, n'a pas les moyens de payer puisqu'il nécessite de se rendre à l'étranger. Elle et plusieurs jeunes Nigériens décide alors de prendre les choses en main. Au début du mois, une cagnotte en ligne est lancée pour financer son évacuation en Turquie. L'appel est relayé sur les réseaux sociaux. Opérateurs économiques, fondations, anonymes mettent la main à la poche pour lui venir en aide. L'objectif de départ, 40 millions de francs CFA, est déjà largement dépassé. L'équivalent de 100 000 euros ont été récoltés. Je ne saurais assez remercier, confie Yasmina sur une chaîne locale. Hier, les dons continuaient d'arriver. La cagnotte reste ouverte pour financer la suite des traitements.
Magali Lagrange, la suite et la fin d'RFI Matin, Andréane Mellard.
Merci Nemo Ampis, belle journée à vous.